RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Oh, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans l'After de 2h, puisque ce soir, c'est samedi, 35e journée de Ligue 1. Samedi avec un casting différent, je dirais exceptionnel.
Non, c'est pas ça.
Voilà. Pensez d'ailleurs pour Ali Benarbia, ouais. Voilà, qu'on embrasse Ali. On embrasse d'ailleurs.
Et Wafa,
effectivement. Et Wafa, Madame Benarbia également, voilà, qu'on embrasse également. Avec nous ce soir, vous avez reconnu sa voix, son look, si vous êtes sur RMC Sport News également avec nous. Jonathan McCarty.
Salut Nico, salut Kevin.
Ça, on a une belle soirée qui se prépare là.
Bref, tu nous as vendu le Candingan comme le match de la soirée.
Alors, ok, mais reste la suite. Canelo contre Jacob en boxe anglaise. Et puis ce soir sur RMC Sport 4, Cowboy Cerrone contre Alia Quinta, c'est à ne pas manquer.
Ali n'est pas là ce soir, mais on l'embrasse. Mais Kevin Diaz le remplace. Super sub. Comment il va, Kevin?
Ah, bonsoir, ça va très bien.
Bon, de toute façon, t'en es habitué maintenant. T'es grande gueule du sport ce matin, c'est-à-dire là, t'es là, tu dors là.
Non, je dors pas là, mais avec un grand plaisir en tout cas, je suis ici.
Eh ben, c'est un grand plaisir que tu sois là également. On attend vos réactions sur le hashtag RMC Live. On vous attend au 32-16 pour revenir sur les affiches de cette 35e journée de Ligue 1. On reviendra sur le match nul du Paris Saint-Germain face à Nice. On écoutera Thomas Tuchel, alors qu'il nous dit l'équipe est en mode match amical, c'est évident, c'est la fin de saison. Alors est-ce que vous trouvez ça évident comme Tuchel, vous trouvez ça choquant? On vous attend au 32-16 pour y répondre. On est à J-1 du match entre Lyon et Lille. Sachez qu'on sera en direct à partir de 23h avec Gérard Lopez, le président du LOSC, qui sera en direct avec nous dans l'after. Et puis petit dossier également autour de l'entraîneur de Lyon, supporter lyonnais. Quel entraîneur aimeriez-vous la saison prochaine? Voilà, on parle de Christophe Galtier notamment. Il a répondu d'ailleurs à cette question hier en conférence de presse, Christophe Galtier, à la rumeur OL. On attend vos propositions sur le hashtag RMC Live. Valérie, notre community manager, vous a préparé tout ça sur le compte Twitter de l'after. Et puis on sera en première ligue également avec Julien Laurence. On sera également, on parlera de Bundesliga avec David Lortolari. Tiens, puisqu'il est question de Première Ligue, on va aller le voir tout de suite. Morgan Mori est en train de suivre pour nous le match entre Newcastle et Liverpool, affiche de la 37e et avant-dernière journée de Première Ligue. Bonsoir Morgan. Surprise Morgan.
Oui, bonsoir Nico, bonsoir l'after, bonsoir à
salut
tous.
Morgan.
Oui, car Newcastle vient d'égaliser, but de Rondon sur une frappe croisée. Alisson Becker est resté muet sur sa ligne, il n'a pas bougé. Liverpool a mené deux fois, Newcastle est revenu deux fois, c'est la 61e minute à St James Park, deux partout entre Newcastle et Liverpool. Si le score en reste là, Nicolas, lundi soir, Manchester City qui accueille Leicester aura une très belle occasion pour plier le suspense du championnat d'Angleterre. 2-2, 61e minute entre Newcastle et Liverpool.
Merci beaucoup.
10e but de Rondon, cette rencontre.
Il est pas mal.
Pas mal.
Il est bon en sélection surtout. Et il est bon en sélection. Et sachez également que cet après-midi, Tottenham a perdu à Bournemouth 1-0. On y reviendra sur ce match avec Julien Laurence. Match important dans la course au top 4. Et puis il y a du rugby également ce soir. La Rochelle-Toulon, 24e journée de top 14. Pierre-Yves Leroux est au stade Marcel de Flandre. Salut Pile.
Salut Nico, bonjour à tous.
Tu fais du rugby toi aussi?
Oh Pierre-Yves, salut.
Ouais, je descends vers le sud.
Tu fais de la voile, du rugby, du football.
Et le seuil de décompression, c'est pas trop dur de faire le rugby?
Là, quand c'est un match comme ça, c'est sympa.
Ça va?
Ah ouais, c'est bien.
La Rochelle-Toulon, bon, ça a été difficile en première période. Là, c'est mieux. Les Rochelais qui sont en train de faire le break, ils mènent 17-7 avec un nouvel essai inscrit il y a quelques instants par Kerr Barlow, transformé dans la foulée. Et bien, c'est plutôt bien parti pour La Rochelle dans la course pour les phases finales, puisqu'ils sont 6e actuellement. Et derrière, il faudrait peut-être encore une petite victoire. Il reste deux matchs. C'est bien parti, en tout cas, pour les Rochelais qui mènent 17-7.
Merci beaucoup, Pile. Les gars, on va débuter cette affaire. On parle plus important, et le plus important, vous le savez, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tu veux commencer, Jonathan?
Ah bah, honneur à Kevin.
Tu veux commencer, Kevin?
Samedi.
Ok. moi, j'ai commencé par le premier point. Bon, forcément, Paris en roue libre. Et un point virgule avec Cavani, c'est fini pour moi, au Paris Saint-Germain. Et le deuxième point, c'est Vieira. Quel boulot quand même avec cette équipe de Nice. Pour moi, les Niçois auraient même pu s'imposer avec cette énorme occasion pour Saint-Maximin, notamment en première mi-temps, à 1-0 pour le GC Nice.
Bah, le poteau est derrière le fameux péno, donc pour le PSG.
Voilà. Et le troisième, c'est Caen. Ouf pour les supporters canets, et bravo quand même, en tout cas pour l'instant, à Roland Courbis, qui coach Roland, qui qui pour l'instant est en train de réussir son coup. Cette semaine, il nous a fait un grand show médiatique et il a réussi à prendre le point
donc
qu'il cherchait.
Donc c'est l'entraîneur. Donc c'est bravo.
C'est tout un club.
Ouais.
Enfin, bravo Fabien Marcadal.
Bravo Fabien Marcadal ouais, aussi.
Oui.
Pas l'oublier quand même.
Tu me fais un oui en mode.
Allez.
Alors quoi? Bah, non, il coach aussi Marcadal.
Bah, c'est l'entraîneur.
Bravo à l'entraîneur Fabien Mercadal et voilà. Bravo à son adjoint,
à son conseiller,
co-entraîneur Roland Courbis.
Ouais. Ouais, je crois que c'est un conseiller du président, un truc. Bah, c'est Roland quoi.
C'est Roland.
C'est inqualifiable. Ouais. Tes trois points, qui seront certainement inqualifiables d'ailleurs aussi.
Sûrement. Allez, le premier point, bah je pense que c'est sur Thomas Tourelle. Tourelle pour moi perd les pédales. À la fois, on voit qu'il a plus du tout la main sur son équipe, une gestion calamiteuse, notamment d'Edinson Cavani, qui le traite comme si c'était un moins que rien, alors que c'est une légende vivante du Paris Saint-Germain désormais. Plus sa conférence de presse totalement lunaire, donc Tourelle, faut vraiment qu'il se ressaisisse et va falloir prendre des décisions pour le PSG. Le deuxième point, c'est que Guingamp l'a cherché, pas d'ambition. Tu commences le match avec 3 milieux défensifs, des changements frileux en cours de match. Il y a eu un peu de mieux quand Grosvenac a repris l'équipe, c'était peut-être le fameux choc psychologique, mais très franchement, quand tu veux pas, et ben quand t'as pas d'ambition, t'as ce que tu mérites, et à mon avis c'est la Ligue 2. Et le troisième point, bah c'est Savagnier, 13e passe décisive, qui est toujours aussi bon. Écoute, on a plus de mots pour le qualifier. Il est pas nommé dans les meilleurs joueurs de Ligue 1, il me semble. Non?
Non.
Bah c'est une aberration parce que c'est quand même un milieu défensif qui a 8 buts, 13 passes décisives. Et pour faire très court pour le suivre depuis un bon petit moment, depuis qu'il est à même quand il était en Ligue 2 parce qu'il jouait avec Larry Azouni, un ancien du centre de formation de l'OM à l'époque, et ben franchement il était toujours aussi bon. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un joueur qui est performant depuis des années. Voilà.
Je vous donne mes trois points également ce soir. Je vais commencer par le PSG. D'ailleurs, on va commencer cet after dans quelques instants également avec ça. Bah, le PSG, ça va pas mieux. On va écouter Thomas Tourelle dans quelques instants et ses explications. Alors, on va en débattre avec vous au 32-16 avec Kevin, avec Jonathan. Lunaire. Mais voilà, en gros, ils sont en mode match amical. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que ça vous choque? Mon deuxième point, bah, c'est vivement demain, les gars. Eh ouais, Lyon-Lille. Alors oui, il y a 6 points d'avance pour le LOSC au coup d'envoi de ce match. Il resteront 9 points à prendre après la rencontre de demain. Il va être très important ce match. Et c'est vrai que c'est j'en salive d'avance. Et mon troisième point, je vais pas le faire. Moi, je fais la grave du troisième point.
Pourquoi?
Parce que c'était une soirée pourrie. Voilà. Il y avait, alors, le match le plus sympa, c'était celui où il n'y avait pas d'enjeu. Ok.
Tu veux pas parler de l'UFC sur RMC Sport 4 ce soir, non?
Alors, attends, je vais faire un tweet du coup. Arnaud nous dit sur le hashtag RMC Live, Jonathan McCarthy n'a pas tenu 15 secondes pour parler boxe. Combien de temps va-t-il tenir avant de parler de la maison du whisky d'Amiens?
Il joue demain. Bon, faudrait que ce soit à propos.
À consommer avec modération.
Allez.
Cet après-midi, le Paris Saint-Germain a donc fait match nul, un but partout face à Nice. Le premier buteur de ce match, Ganago pour les Aiglons. Égalisation Neymar sur penalty à l'heure de jeu. Cavani, dans le temps additionnel, a lui aussi tiré un penalty, mais il a été arrêté, le péno de l'Uruguayen. Alors le PSG qui enchaîne un troisième match en victoire. Sur les 7 derniers matchs, le PSG compte une victoire. C'était face à Monaco, victoire en championnat 3-1, toute compète confondue.
14 buts encaissés sur les 5 derniers matchs aussi.
Ouais, c'est beaucoup. Hein,
ouais.
On va écouter Thomas Tourelle justement, puisque le débat va porter là-dessus. Thomas Tourelle qui compare cette fin de saison du Paris Saint-Germain en L1 à une série de matchs amicaux.
On a gagné le championnat très très tôt et c'est évident. C'est évident aussi, c'est un peu comme on joue des matchs, un peu comme des matchs amicaux. On a manque des choses et c'est peut-être aussi humain parce que oui, cette phase maintenant montre nous que c'est pas facile de gagner, c'est pas comme nous sommes là et on prend le maillot et après on gagne, c'est pas comme ça.
Alors, on va rebondir sur les propos de Thomas Tourelle. On vous pose la question également au 32-16. Cette fin de saison du PSG, est-ce que vous trouvez ça évident, entre guillemets, comme dit Thomas Tourelle, ou est-ce que vous trouvez ça finalement presque choquant? On attend vos avis au 32-16 sur le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Vous avez l'habitude. On va d'abord vous écouter, Jonathan et Kevin.
Pour moi, je pense qu'il faut bien différencier deux choses. On en a un peu parlé avec Kevin avant l'émission. Il faut différencier le comportement des joueurs qui est scandaleux, mais qui peut être explicable. J'ai pas dit excusable, mais explicable. Ils ont été champions, etc. C'est la fin de la saison, c'est heureux de se motiver. En revanche, ce que je trouve inadmissible, impardonnable et inqualifiable, c'est cette conférence de presse lunaire de Thomas Tourelle, qui perd les pédales totalement depuis le mois de janvier, et qui plus est, prend l'eau de toutes parts depuis l'élimination scandaleuse face à Manchester. Le mec, faut quand même lui rappeler qu'il joue. Puis il entraîne un club qui est un très grand club, qui s'est fait humilier. Les supporters sont meurtris. Je pense que n'importe quel supporter du Paris Saint-Germain nous le dirait. C'est une saison qui est honteuse. Ils ont senti de la honte, de la tristesse. Et tu peux pas transmettre ce discours mou du genou, de la calinothérapie, de chercher des excuses, de brosser les joueurs dans le sens du poil, quand les supporters dans les tribunes sont en train de fulminer. Donc moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce mec est arrivé, il nous a enthousiasmés. Il a fait un super travail sur les 6 premiers mois. Mais j'ai l'impression que le vrai problème de Thomas Tourelle, c'est que depuis qu'il est arrivé au PSG, il joue à contre-emploi. Pourquoi ? On le connaissait, Thomas Tuchel de Dortmund, qui était un mec capable d'être très autoritaire, limite un petit peu vraiment quelqu'un à poigne, voilà quoi, qui allait chez les joueurs, les engueuler, regarder ce qu'ils mangeaient, etc., qui était capable de tenir tête à ses dirigeants. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est au PSG, il a essayé de rentrer dans un espèce de moule du gentil petit géo qui a sa colonie d'enfants terribles. Et ce discours-là, après un match qui est pas bon mais pas mauvais, hein, c'est un match qui est moyen, même si on veut être gentil, je trouve que ça manque cruellement d'autorité sur son groupe. Et c'est ce qui le caractérise depuis de trop nombreux mois.
Ton avis, toi, Kevin, là-dessus. Est-ce que toi, tu comprends quand Thomas Tuchel dit, bon, bah voilà, on a été sacré champion finalement trop tôt. Bon, il a pas parlé de l'élimination de la Ligue des Champions,
mais ça compte. Ça compte.
Ouais, et finalement, bah, on est un peu en roue libre et les mecs sont plus dedans. Lui, il dit, c'est évident.
Moi, je pense que je suis pas du tout d'accord avec Jonathan pour le coup. Parce que, certes, alors Jonathan, il est bien placé pour me répondre. Tu préfères quelqu'un, un entraîneur comme Thomas Tuchel qui te dit la vérité. La vérité, même si elle est pas audible, même si elle devrait peut-être même pas être dite, même si elle agace les supporters ou les analystes comme nous, ça nous agace tous, ou tu préfères les conférences de presse de Rudy Garcia qui te sort tout le temps
Rudy Garcia, ne me parle pas de Rudy Garcia, je me suis déjà assez énervé.
Voilà.
Je vais te répondre. Moi, ce que je préférais, c'est un entraîneur qui se comporte comme il devrait se comporter, c'est-à-dire qu'il devrait être énervé, qu'il devrait montrer
qu'il surjoue. Tu veux qu'il qu'il soit pas naturel.
Moi, je pense qu'il est pas naturel, au contraire. On l'a vu à Dortmund comment il était intraitable. Donc, on dirait qu'il est schizophrène par rapport à Dortmund.
Donc si tu me laisses finir, après, je pense qu'il faut dire que Thomas Tuchel, il est dans un bourbier.
Ah bah ça oui.
Dans le sens où je pense pas qu'il est coupable des remous internes du Paris Saint-Germain, des passes droits, des problèmes de l'effectif, des blessures.
De certains oui.
De certains peut-être.
Mais à l'image de la gestion d'Edinson Cavani, c'est de sa faute ça.
Voilà, mais justement,
Et puis les remous, c'est aussi un peu de sa faute. Les rapports qu'il peut en avoir avec certaines personnes, responsable.
En tout cas, chacun aura son avis. Bon, pour moi, c'est pas de sa faute. Après, moi, je pourrais en avoir connu des saisons et pas plus tard qu'il y a pas longtemps, des saisons comme ça où que ce soit pour le maintien, que ce soit pour la montée ou pour le titre de champion, vous avez plus rien à jouer sur les 4-5 derniers matchs. Eh bien, forcément. Ça devrait pas être le cas, Jonathan. Mais forcément,
je suis d'accord avec toi.
De haut niveau, en tout cas, surtout dans un sport collectif comme le football, il y a une décompression.
Sauf que là, que cette saison, tu t'es fait humilier. T'as des choses à te faire pardonner. Okay, mais c'est pas pareil.
Okay, mais l'entraîneur, lui, est sur son banc de touche. Il a dû aligner une équipe bis, voire une équipe B ou C pendant plusieurs matchs. Là, il retrouve quelques titulaires. Il n'y a pas vraiment de cohésion dans cette équipe. Et Thomas Tuchel, il arrive en conférence de presse et il te sert tout simplement la vérité.
Tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé contre Manchester, qui a marqué au Père Rouge.
Donc, ils ont gagné 3-0 contre Nice qu'on allait oublier Manchester.
Non, ça aurait pas fait oublier, mais aurait été le minimum syndical. Le minimum syndical vis-à-vis de tes supporters.
Tu parlais du fait que Thomas Tuchel sortait le fouet également quand il était, c'est souvent la carotte et le bâton, d'ailleurs, les entraîneurs. Thomas Tuchel fait partie de cela également. Info que vient de nous envoyer Loïc Tanzi. Après la défaite face à Montpellier cette semaine, Thomas Tuchel avait annulé le jour de repos le lendemain. Il leur avait, finalement collé un jour d'entraînement en plus. Même chose ce soir. C'est-à-dire, Thomas Tuchel leur a dit, demain, les gars, il n'y a pas de repos. Vous allez vous entraîner. Ils seront au camp des loges demain, les gens.
Donc ça prouve bien que ce qu'il raconte en conférence de presse, il le pense qu'à moitié. Parce que si c'était vraiment que des matchs amicaux, il laisserait couler et puis il laisserait les joueurs vivre, doucement sur la fin de la saison.
Je vais pas te l'apprendre, pas à toi. Ça s'appelle de la communication.
Ce qu'il fait là, mais c'est de la mauvaise communication.
Pourquoi?
Pense aux supporters.
Les gars, il doit communiquer en fonction des supporters.
Non, il doit dire la vérité. La communication qu'il fait, il l'a fait pour ses joueurs, parce que t'as l'impression que depuis qu'il est au PSG, qu'il ose pas trop s'affirmer, que...
Est-ce que tu veux dire juste, je vous coupe juste deux secondes, on va aller retrouver Morgan Mori parce qu'il se passe quelque chose, d'assez grave, visiblement, dans le match entre Newcastle et Liverpool. Morgan, de partout, pour l'instant, entre les deux équipes. Mais là, sale nouvelle pour les Reds, une de plus.
Oui, Mohamed Salah a des images qui ressemblent à ce qu'il a vécu peut-être il y a un an dans cette finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mohamed Salah est à terre, il sort du terrain dans la barquette, dans la civière. C'est consécutif à un choc avec Dubravka, le portier de Newcastle. Il était venu disputer le ballon de la tête. Mohamed Salah, il a été percuté de plein fouet par le gardien qui était aussi aidé par plusieurs joueurs de... Pardon Nicolas
c'est Jonathan, lui.
À quel niveau
c'est pas grave.
Il s'est fait percuter à quel niveau?
Et honnêtement, c'est plus. Je sais pas, Jonathan. Honnêtement, sur l'action, on a pas, j'ai pas vu un autre ralenti. Peut-être sur au niveau de la tête, des cervicales, au moment de la chute. Je suis incapable de te le dire. Il a été bousculé plusieurs fois dans la partie. Mohamed Salah a été touché au pied. Il avait quand même pu continuer le match. Et là, cette fois-ci, coup dur. Il va manquer pour les 18 dernières minutes de cette partie 2-2 entre Newcastle et Liverpool pour le match retour de Ligue des Champions contre le Barça. On va attendre des nouvelles, peut-être pour la dernière journée et peut-être pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans son pays.
Bah c'est surtout à sa compense, ouais.
En Égypte, cet été, 73e minute, 2-2 entre Newcastle et Liverpool et sortie sur blessure de Mohamed Salah.
Merci beaucoup, Morgan. C'est une nouvelle, hein, donc pour les Reds.
Et qui en plus. Égypte aussi, peut-être.
Non, mais attends, ils ont une demi-finale de Ligue des Champions à jouer. Alors certes, ils ont perdu 3-0 face au Barça, mais c'est pas plié encore non plus. On sait que Firmino avait pas pu jouer la demi-finale aller face au Barça non plus. Autre sale nouvelle,
hein. Non, mais il y avait eu tous ces, l'Égypte avait été pénalisée aussi avant la Coupe du Monde. Là, c'est quand même, ça serait quand même dommage, hein. La CAN, elle est belle, elle va être chez eux. Enfin, voilà, quoi. Ouais.
Qu'on vous fera vivre d'ailleurs cet été sur RMC également. Dans quelques instants, on sera avec Chris, supporter du Paris Saint-Germain, supporter du PSG. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. On a écouté Thomas Tuchel qui explique que cette fin de saison du PSG en mode match amical, elle est évidente. Je cite, est-ce que vous trouvez ça évident ou choquant? Ils sont pas d'accord, Jonathan McCarty et Kevin Diaz. On attend vos avis également. On vous rappelle un partout donc entre le PSG et Nice. Nous, on se retrouve juste après ça.
RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan McCarty et de Kevin Diaz, on vous rappelle les résultats de la 35e journée de Ligue 1. Guingamp et Caen qui ont fait match nul 0-0 ce soir. Victoire d'Angers à Bordeaux 1-0. Nîmes est allé gagner 3-0 à Reims. Un peu plus tôt cet après-midi, un partout entre le PSG et Nice. On vous attend au 32-16 pour venir sur ce match nul et sur les propos de Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre. Juste avant, petit détour par La Rochelle. Retrouvez Pierre-Yves Leroux. La Rochelle-Toulon, 24e journée de top 14, mon pile.
Et on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. La Rochelle qui mène à 20-14. Ils ne sont pas à l'abri d'un retour des Toulonnais, et là ils ont une mêlée, introduction pour La Rochelle à 5 mètres de l'embut toulonnais, mais ça va être à refaire cette mêlée dans quelques instants. 20-14 avantage La Rochelle à 10 minutes de la fin.
Merci beaucoup Pile. On va accueillir Chris, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16 et qui va venir alimenter ce débat autour de Thomas Tuchel après ce nouveau nul, plutôt cette nouvelle contre-performance des Parisiens partout face à Nice ce soir. Salut Chris.
Salut les gars, salut la team RLC, ça va?
Bah ça va et toi alors?
Salut.
Bah écoute, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je sais pas comment me sentir maintenant.
Bah elle est dure la fin de saison, on le disait tout à l'heure, une victoire sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, ça fait un peu tâche ou pas d'ailleurs?
Non mais c'est même plus la fin de saison, c'est le projet qui est dur tout court. C'est le projet qui est fou, qui va plus du tout. C'est là je réagis même par rapport à la conférence de presse de Tuchel qui parle de match amicaux, mais qui parle de match amicaux une fois qu'on commence à perdre. Il y a un moment avec Paris, en fait, on se demande quand est-ce qu'on va arrêter de se chercher des excuses. Ça veut dire que ça fait 7 ans que le projet il est là. Tous les ans ils sont liés au jeu de l'Europe et chaque année il y a un nouveau truc, soit il manque un défenseur, soit il manque un milieu de terrain, soit Neymar est blessé, soit il n'y a pas d'attaquant, soit Cavani ça va pas selon certains, etc., etc. Les Qataris sont arrivés il y a 7 ans, d'accord, on a changé d'entraîneur je ne sais combien de fois. À force d'échecs, ils ont acheté des joueurs pour plus d'un milliard. La prochaine solution, c'est quoi? C'est au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est on a tout tenté. Est-ce qu'il ne faut pas juste remettre en question le projet QSI, tout simplement? Est-ce que c'est une utopie de demander le départ des Qataris? Ça veut dire qu'en fait, le club du PSG, en fait, à la base, il existe avec ou sans eux. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis...
Ouais, mais Chris, attends, Chris, juste... Enfin, bon, là, le débat, c'est plus sur la fin de saison, comme on explique le fait qu'il soit...
Non, mais d'accord.
Juste pour te répondre, bah, c'est que, moi, je fais le même constat que toi, hein, au niveau européen, ça passe pas. Oui, mais enfin, au niveau national, les mecs, pardon, mais je crois que sur les 20 derniers trophées nationaux, ils ont remporté 15. Donc, il y a quand même une évolution à ce niveau-là.
Moi, je vais poser juste une question, Chris. Quand tu dis, est-ce qu'il faut que les Qataris partent, moi, j'ai trop formulé la question, c'est est-ce qu'il faudrait pas que les Qataris fassent enfin partir Nasser? Parce que les Qataris, c'est très bien qu'ils sont, enfin, c'est bien pour le club qu'ils soient là, ils apportent de l'argent, ils apportent une surface financière qui te permet de faire des grandes choses. Mais le problème, c'est la direction. C'est Nasser Al-Relaï. Le problème de ce club-là.
Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, le problème, tu sais, moi, quand je regarde le Paris Saint-Germain et quand je regarde Nasser, en fait, j'ai l'impression que soit ils ont peur de faire partir Nasser, je sais pas pourquoi, ou si
c'est l'ami du prince. L'homme de confiance du prince, Chris.
Ouais, non, mais voilà, exactement. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas la capacité de pouvoir le remplacer.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut que les Qataris s'en aillent. Tu vois ce que je veux dire, Chris?
Non, mais d'accord. Mais parce que attends, je réagis. Hein, parce que tu me dis, qu'en gros, ils apportent de belles choses, etc.
De l'argent.
Ouais, de l'argent, d'accord. Mais en dehors de l'argent, il y a l'aspect footballistique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, d'accord, je suis d'accord qu'il y a de l'argent, c'est bon pour le championnat de France, etc. Mais moi, comme je te l'ai dit, je suis supporter du PSG depuis longtemps. Quand Paris, ils n'étaient pas au niveau, ils étaient nuls, etc. Et je les supportais. Et j'avais plus d'affinité avec le club quand ils étaient mauvais que maintenant. Ça veut dire que...
Mais ça, c'est personnel.
Écoute, si tu me permets, je sais, on a compris où tu veux en venir. Tu trouvais que le club avait peut-être plus d'âme. D'ailleurs, il jouait avec son maillot Echter et pas avec un maillot qui change tous les ans et qui est même pas reconnaissable aux yeux de l'Europe, du football, si tu vois ce que je veux dire. L'identité, on sait tous que c'est important. Maintenant... C'est difficile quand même de dire que les Qataris, on voudrait qu'ils s'en aillent. Bon, non, peut-être qu'ils vont s'en aller d'ailleurs après la Coupe du Monde. Donc profitez-en. Mais quand même. Après, le problème, c'est qu'ils sont venus avec une idée.
Ils ont fait passer.
Et ils vous, entre guillemets, ils vous ont. Je parle.
Ils ont fait passer le club dans une autre dimension.
Ils ont fait passer le club dans une autre dimension. Ah, oui. Ils sont un peu trop trompés d'objectif en parlant directement et trop rapidement de cette Ligue des Champions, qui vampirise un peu toutes les aspirations de ce club. Alors que à la base, quand même, ce qui est important pour un club au niveau national, c'est de remporter le titre. Et ça, ils l'ont fait. Alors, ils ont perdu contre Monaco.
Au bout d'un moment, c'est plus suffisant.
Mais sinon, ils l'ont fait.
Au bout d'un moment, c'est plus suffisant. T'as envie de briller quand même sur la scène européenne. Et là, par rapport à ce que tu dis, Chris, moi, il y a un truc, tu vois, qui m'énerve par rapport à ce que, pour en revenir à ce que Tourelle a dit, c'est que quand Tourelle dit, oui, c'est des matchs amicaux, machin, c'est pas grave, il sert des excuses, mais il crache sur l'institution du Paris Saint-Germain. Si le PSG, c'est quand même un club qui veut dire quelque chose en France. Quand t'es bleu Paris Saint-Germain, même si t'es champion avec 36 000 points d'avance, tu dois vouloir gagner tous les matchs.
Mais lui, te dit pas l'inverse.
Je dis pas qu'il a dit l'inverse. Jonathan, mais je dis qu'il devrait pas le pardonner.
Jonathan, qu'est-ce qu'a fait la Juve hier? Réponds-moi.
Un match nul contre le Torino. Mais le Torino qui a joué crânement sa chance.
Combien de victoires de la Juve?
La Juve, c'est une fin de cycle avec un entraîneur. Il y a beaucoup de
questions.
C'est pas parce que des autres merdes qu'il faut excuser ce que font les autres.
Non, mais c'est pas les autres merdes, c'est la réalité du football. Ouais, tu veux l'entendre, soit tu veux pas l'entendre.
La Juve ne s'est pas fait humilier sur la scène européenne.
Si tu dis que Thomas Tuchel,
Thomas Tuchel
crache sur l'institution du PSG parce qu'ils ont des mauvais résultats depuis qu'ils sont champions, c'est faux.
C'est pas ça.
Dans tous les championnats.
C'est pas ce que j'ai dit, Kevin.
Et ça arrive parce que c'est
la
décompression.
Mais c'est pas ce que j'ai dit du tout.
Je comprends pas où tu veux en venir non plus quand tu dis il crache sur l'institution.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est qu'ils enchaînent les contre-performances depuis qu'ils sont champions à la rigueur. Bon, bah, on peut trouver des explications sans l'excuser. Mais que l'entraîneur de l'équipe première arrive et, avec une posture en disant oui, on les excuse, machin et tout. Je trouve que
c'est la vérité.
Le problème, c'est que tu dis exactement la même chose que Tourelle. C'est-à-dire, lui, il te donne une explication. Ça veut pas dire qu'il cautionne la preuve. Loïc Tanzi vient de nous le dire, demain il y aura pas de jour de repos une fois de plus. Alors tu vas me dire, c'est peut-être trop tard, etc. ou quoi. Mais le fait est que il arrive, il te dit, on est en mode match amical, les mecs sont pas concernés.
Mais il doit pas le dire.
C'est
ça,
évident,
Nicolas.
Mais ça veut pas dire que ça emmerde.
Son discours avant tout, s'il avait conscience d'être à la tête du club, enfin de l'équipe qui l'entraîne, ça serait, c'est inadmissible. On est le Paris Saint-Germain, on se doit de gagner tous les matchs. Après, peut-être qu'on peut trouver des explications. Mais avant tout, c'est inadmissible.
Conférence, il le dit que le Paris Saint-Germain.
Ces conférences, on les écoute tous.
Avoir une meilleure équipe à présenter que les
Kevin, je peux pas. Non, ces conférences de presse, il passe son temps à dire qu'il manque de joueurs, qu'il a pas eu les joueurs qu'il voulait. On peut en parler de son mécontentement sportif, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle des manquements en termes de numérique, tu vois, dans son effectif, qu'il a pas eu assez de recrutement.
Ouais,
mais moi, j'aimerais l'entendre dire. J'ai conscience d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain et de faire la saison en roue libre, même s'il y a des explications. Là, je te rejoins, y a pas de problème. C'est juste inadmissible, c'est tout. Il entraîne un grand club, hein.
Pour moi, il l'a dit.
Ben non, il a pas dit. Passez-moi le son, il a pas dit.
Ces dernières semaines, il l'a dit.
Non, il a pas dit. Mais si. C'est ça le problème. Mais s'il avait dit, je t'inquiète pas, je tiendrai pas ce discours-là.
Ces dernières semaines, il l'a dit.
Bah, il a quand même dit qu'après la défaite contre Montpellier, qu'effectivement, c'était pas acceptable, etc.
Mais ça reste en demi-teinte, à chaque fois. C'est de la demi-molle, à chaque fois.
Toi, tu veux qu'il tape du poing sur la table.
Moi, mais bien sûr. Attends, tu prends 5 ans contre Lille. Tu te fais taper par Montpellier, tu te fais taper contre Nantes. Oh, au bout d'un moment. Je sais pas, moi j'aimerais retrouver le Tourelle qu'il y avait à Dortmund, qui était capable d'aller taper du poing sur le bureau de ses dirigeants et de râler.
C'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes, Jonathan.
L'entraîneur
de Dortmund ne peut pas être le même qu'au Paris Saint-Germain.
Ah mais ça, je suis d'accord. Ça, il y a pas de problème là-dessus.
Donc déjà pour lui, moi je trouve qu'on doit noter sa capacité d'adaptation. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on est obligé de voir les faits.
Juste Kevin, je suis en train train de relire les déclats, alors plus en longueur, parce que là vous avez un extrait de la conférence de presse. Alors il dit voilà, on manque de tension avant le match. Moi aussi, c'est normal. Il y a rien à gagner, pas d'objectif à atteindre. Nous ne sommes pas contents de notre jeu. On manque de rythme, d'agressivité, d'accélération. Je peux comprendre. En fait, la question c'est, est-ce que cette explication, quand Thomas Tuchel dit je peux comprendre, bah est-ce que c'est compréhensible?
Le début de phrase, Nico. Redis le début de phrase, début de la phrase, le tout début de ce que tu viens de lire.
On manque de tension avant le match. Moi aussi, c'est
moi
normal.
Aussi, voilà. Moi aussi. Et lui, c'est l'entraîneur, bordel. C'est pas possible de raconter ça. Ouais. Franchement, c'est scandaleux.
Donc, tu veux pas qu'il te raconte la vérité? C'est ce que je te dis.
Mais si c'est la vérité, c'est grave. Mais moi, je veux qu'il me dise la vérité. Mais c'est grave.
C'est la vérité à tous les niveaux.
Ouais, merci Chris qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir Thierry, autre supporter du PSG qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Thierry.
Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Salut Thierry. Ça va et toi Thierry?
Ouais, bien. Je suis à Marseille et je vous écoute.
Ah, supporter du PSG à Marseille?
Oui.
Comment alors? Raconte-nous, et c'est comment?
Je suis arrivé il y a une vingtaine d'années.
Ah.
L'anecdote, c'est que je courais avec le maillot du PSG sur la corniche et je
t'as disparu pendant 3 semaines, ouais.
Et je me suis fait insulter. Et maintenant, je retrouve des maillots qui courent sur la corniche. Je suis tout seul.
Ça va, mon pote, hein, parce que sur la corniche, t'as pas pris grand risque, hein. Les gens sont plutôt bien élevés sur la corniche. Je te dis, va faire ça à Notre-Dame du Mont ou sur la Canebière, ça sera autre chose, hein. Ça aurait été une autre histoire.
Je suis dans le 8e.
Voilà. C'est la bourgeoisie marseillaise, là-bas.
C'est le petit Nice, pas Cédale.
C'est comme le 8e à Paris.
C'est la corniche.
Je vois que monsieur connaît bien le petit Nice, donc c'est pas.
Et figure-toi que Gérald Paceda, figure emblématique de la cuisine marseillaise, donc qui est le chef du petit Nice, qui est un restaurant mondialement connu de poisson, a repris en main la brasserie de l'hôtel Lutetia. J'habite en France, tu manges la même bouillabaisse que tu peux manger au petit Nice, ce qui est formidable.
C'est merveilleux, la pub est passée et tu boufferas une bouillabaisse à l'œil au prochain coup.
Thierry, allez, j'espère.
Ton avis sur les déclats de Thomas Tuchel et sur cette fin de saison du Paris Saint-Germain en mode match amical, comme dit Tuchel alors?
Ouais, bon, moi, c'est vrai que ces matchs amicaux, moi, ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange, c'est l'élimination contre Manchester. Après, ils sont en mode amical, mais ce qui passe pas, c'est que c'est Manchester. Après, on a une super équipe. Moi, j'ai rien contre les petites équipes, mais. Ça passe pas contre Manchester. Ils ont beau marquer 5 buts contre Monaco, je m'en fous. Je veux la Ligue des Champions. On a une équipe hors norme et on fait rien.
Est-ce que tu penses, Thierry? Attends, juste reste avec nous Thierry, on va aller du côté de Newcastle retrouver Morgan Mori parce que le score est en train de bouger entre Newcastle et Liverpool, Morgan.
Oui, Liverpool qui veut garder intact ses chances de remporter le titre en Première Ligue. But de Divock Origi, 3-2 pour Liverpool face à Newcastle, 88e minute. C'était un coup franc de Zerdan Shaqiri côté droit, long de la ligne de touche, et Origi qui a remplacé Mohamed Salah blessé, qui est venu devancer Lascelles, le capitaine de Newcastle, pour tromper le portier des Magpies. Ça fait 3-2 pour Liverpool face à Newcastle. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Si le score en reste là, Liverpool jouera tout pour le titre, quoi qu'il arrive lundi dans le match de Manchester United. Jouera tout pour le titre dimanche prochain, Manchester lors de la 38e et dernière journée.
Merci beaucoup.
Il marque des buts importants, hein. Ouais. Origi, il en marque pas beaucoup, mais
il joue pas beaucoup en même temps.
On
rappelle, hein, Salah est sorti sur civière, touché. Il a suivi un grave choc. Mohamed Salah, Charles, c'est au Portugal.
Apparemment, c'est un chaos. C'est une concussion, quoi. Donc, pour le match du Barça, ça risque d'être un peu compromis, mais pour la CAN, ça devrait aller.
On récupère notre Thierry, supporter du PSG à Marseille. T'allais dire, Kevin.
Moi, j'ai une question pour Thierry. Est-ce que tu penses encore, comme moi, que Thomas Tuchel est l'homme de la situation?
Oui. C'est un mec.
On t'entend plus là, Thierry. Thierry?
Oui, mais ça fait partie de son jeu. C'est important. Il a de la rigueur. Je pense que s'il a la main sur le recrutement, ça devrait changer. Et il faut peut-être prendre un préparateur mental.
Voilà, Thierry, t'entends plus Thierry là. On l'entend plus Thierry.
À Marseille depuis une vingtaine d'années, mais je pense que c'est le mental qui
un préparateur qui va mental. Pas on en avait un l'autre jour dans l'after, mais s'en pense de ça. Toi, t'aimerais qu'il reste un Tuchel, toi, au PSG, hein?
Moi, j'aimerais qu'il reste parce qu'il y a déjà eu beaucoup de changements dans ce club. Moi, je pense qu'on a rechangé un entraîneur maintenant. Alors, je suis d'accord avec Jonathan dans le sens où c'est vrai qu'il était plus inspiré, comme toute son équipe. Mais un entraîneur peut aussi avoir des manques d'inspiration, ça peut arriver dans les 6 premiers mois. Mais depuis, il a beaucoup de déconvenues. On concédera tous que ce match à Manchester, c'est un accident. Moi, je crois que.
Non, c'est pas un accident.
Mais c'est un accident.
C'est un mal rampant dans ce club depuis des années.
Accident.
Non, non.
En tout cas, c'est ce que dit Tourelle.
Ah non, c'est pas un accident.
C'est le mot qu'il a employé.
C'est un mal.
Attends, je parle pas du mal général.
Ouais, voilà.
Qui fait qu'il y a une institution pas assez forte, que les joueurs sont dans un confort et que quand il y a d'adversité, c'est plus compliqué. Ça, on l'a tous compris.
C'est la manifestation d'une maladie vraiment.
Ce match-ci, il y a quand même, voilà, une main volontaire, involontaire à la dernière minute qui fait que, mais si.
C'est la manifestation d'une maladie structurelle du club. C'est tout.
Ouais, d'accord. C'est quand même un accident sur ce match-là. C'est pas juste, la remontada.
Juste pour c'est revenir, pire. Tu disais dans tes trois points, Cavani c'est fini. Mais c'est-à-dire toi, tu veux qu'il parte ou enfin tu veux façon de parler. Tu penses que c'est terminé, il faut qu'il s'en aille.
Moi, je vois que Jonathan est pas d'accord avec moi. C'est bien, ça fait du débat.
Voilà, mec, mais on va être vénère les deux.
Quand je dis Cavani, c'est fini. Cavani, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire du PSG. Il y a aucun problème. Un gars exceptionnel avec un état d'esprit irréprochable. Par contre. Pour moi, son aventure au Paris Saint-Germain, elle se termine parce qu'il a 32 ans, il arrive à un an de la fin de son contrat. Le Paris Saint-Germain, si ils étaient sains financièrement et pas qu'ils n'avaient pas de problème avec le fair play financier, j'aurais dit pas de problème, gardons-le un an de plus. Mais aujourd'hui,
ouais.
Le PSG a des soucis. Ils doivent vendre des joueurs. C'est l'un des rares joueurs qui est encore une valeur marchande sur le marché. Donc,
enfin, il y a quand même pas mal de joueurs du PSG qui ont une valeur marchande, rassure-moi.
Oui, mais dans ce cas-là, c'est soit tu vends un des deux gros, soit tu vends Cavani. Si tu veux vraiment faire rentrer 50 millions.
Vous pensez, vous pensez que c'est combien sur le marché Cavani, là?
Franchement, mais c'est impossible millions, de répondre à ça, les mecs.
Je pense.
Non, mais,
je pense qu'il a encore une valeur marchande. Il lui reste un an. Le PSG a déjà prolongé certains joueurs qui avaient déjà la trentaine. Ça n'a pas forcément été une réussite.
Bah,
il
vrai.
Faut lui dire merci, un grand merci. Il faudra l'applaudir s'il retourne au parc avec son prochain club. Il n'y a aucun problème. Il est dans l'histoire, mais pour moi, son aventure est finie, c'est tout.
Juste avant d'avoir ta réponse. Avant d'avoir ta réponse, Jonathan, c'est terminé au rugby entre La Rochelle et Toulon, Pierre-Yves Leroux.
La belle victoire du Stade Rochelet avec cet essai salvateur à la dernière minute d'Eliott Roudil. 30-21 victoire de La Rochelle face à Toulon. Les Rochelais qui s'installent confortablement dans le top 6 pour la phase finale. Il reste plus que deux matchs en top 14.
Merci beaucoup, bonne soirée, puis à bientôt.
Salut Pierre,
la bise.
Salut.
Ciao.
Juste pour finir, avant de laisser la parole à Jonathan, ce penalty. Voilà, il est symptomatique de la situation du PSG en ce moment. On voit un Cavani frustré tout le match, qui a pas les ballons qu'il veut, qui râle, qui peste. Ce penalty, il est pour lui. Il peut donner la victoire et donner un peu d'air à son club et il le rate. Ouais. Ça veut dire que pour moi, vraiment,
était plus titulaire
le football,
depuis
des fois, il envoie des signes et il faut les accepter.
Jonathan.
Alors sur ce match déjà, moi, ce que je souligne, c'est la gestion. Enfin, sur cette fin de saison, c'est la gestion désastreuse de Tourelle d'Edinson Cavani, qui on sait que voilà, enfin, il aurait pu le faire jouer plus, il aurait pu mieux le gérer, plus le respecter parce qu'il a mérité ce respect contrairement à d'autres joueurs qui ont des passes droits qu'ils ne méritent pas ou du moins qu'ils n'ont pas encore acquis. Et sur Cavani, en fait, par rapport à ce que dis-je. Rationnellement, t'as raison, Kevin. Rationnellement, t'as totalement raison. Ça ferait entrer de l'argent. Il est trentenaire, on a vu, etc. Mais ce qui manque à ce Paris Saint-Germain, c'est qui est très important, c'est un peu d'âme, un peu d'identité. Et Edinson Cavani, il incarne ça. Je pense que c'est un des derniers liens entre le football un peu romantique, le football un peu vrai, ce que ils appellent le football vrai, entre le Paris Saint-Germain et ça. Et c'est un lien important pour le public. Et juste pour ça, même s'il est sur le déclin, même si il a 32 ans, même s'il est moins fort qu'avant, je pense que c'est important que le PSG le garde en tant que symbole et âme de l'équipe. Et
moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais
rationnellement, t'as raison.
Mais
le football, c'est pas toujours rationnel.
Il y a un problème dans ta théorie aussi, Kevin. Bah, c'est que, ok, donc tu dois faire rentrer de l'argent pour le fair play financier.
C'est pas fini.
Non, mais tu dois faire rentrer 50 millions pour le fair play financier. Imaginons que tu vends
la fin de son contrat.
Oui, mais imaginons que tu le vends d'aller 40 ou 50. Après, il te faut un autre numéro 9. Tu vas le payer combien?
Mais le
un
mec de son niveau. Il est déjà là.
Mais c'est qui?
Mais c'est un.
Mais tu peux pas jouer qu'avec un mec. C'est qui le deuxième?
Non mais attends, après il faut recruter intelligent.
Ah bah oui, mais nous y voilà.
Il y a plein de clubs en Europe.
Oui, qui voient PSG arriver, qui se disent les gars, on va les faire raquer les mecs.
Il y a plein de joueurs en Europe
aussi,
que tu peux recruter pour une dizaine de millions d'euros
et qui seront aussi performants que Cavani.
Non mais attends, t'as quand même aussi performant que Cavani, t'as un certain Kylian Mbappé.
Un joueur ne te suffit pas. C'est ce que je suis en train de te dire.
On l'a vu dans les grands matchs.
Après c'est ça le délire.
Il y a aussi le problème de la relation technique. De la relation technique entre Cavani et les deux autres grandes stars.
Ça je t'en rejoins aussi là-dessus.
Donc voilà, donc il y a trop de petites choses qui font que c'est peut-être la fin de son aventure et je suis d'accord avec toi, moi qui aime le football aussi romantique. C'est vrai que moi j'aurais aimé qu'il finisse sa carrière au PSG. Dans un monde idéal, il aurait une fin à la Paoletta comme j'ai lu aujourd'hui sur Twitter, ça aurait été très
même
bien.
Même à la Zlatan.
Merci à Thierry d'avoir été avec nous, supporters du PSG. On vous rappelle le PSG qui a fait match nul un partout face à Nice. Dans quelques instants, on va évoquer le match de la peur de ce samedi soir entre Guingamp et Caen. Il y a eu 0-0. On sera avec Coach Courbis. Victoire d'Angers également à Bordeaux 1-0 et victoire également de Nîmes 3-0. À Reims, on vous attend au 32-16 avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty juste après ça.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan McCarty et de Kevin Diaz, on vous rappelle les résultats de la 35e journée de Ligue 1, un partout entre le PSG et Nice cet après-midi. On a longuement discuté sur les propos notamment de Thomas Tuchel à l'issue de ce match, qui avait déclaré qu'ils étaient en mode match amical, les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a eu 1-0 pour Angers à Bordeaux, victoire également à l'extérieur de Nîmes qui s'est imposé 3-0 à Reims. Et puis ce match très important pour le maintien, dans la course au maintien pour le moins, 0-0 entre Guingamp et Caen. Alors avec ce résultat, Guingamp est toujours dernier, Guingamp qui compte 5 points de retard sur le barragiste qui est donc Caen. Caen 18e, 2 points d'avance sur Dijon qui a pas encore joué. Caen qui a 3 points de retard sur Amiens qui est 17e, 3 points de retard sur Monaco qui est 16e. Voilà. Qui était pas un match dingue d'ailleurs ce Guingamp-Caen. Je sais que tu l'as beaucoup attendu, tu l'as beaucoup teasé sur les réseaux sociaux, Jonathan.
Mais... parce que ça sentait le souffle ce match-là entre les déclats de Roland, le passif entre les deux, le président et puis ce que Roland a pu dire là-dessus. On s'attendait à un match où ils allaient vraiment se rentrer dans la tronche. On s'attendait à des bagarres générales, on s'attendait à un truc un peu ambiance, tu sais, match de district. Bon, ce qu'on a vu très franchement, c'est que Caen a fait un match pas très joli esthétiquement, mais ils ont su jouer sur la faiblesse de Guingamp. Guingamp a commencé le match avec vraiment la peur au ventre. Faut regarder la composition d'équipe avec trois milieux défensifs. Pas beaucoup de choses proposées dans le jeu. Marcus Coco sur le banc. Ils ont eu beaucoup de mal à s'approcher des buts de Canet. Ils ont été très très imprécis. À côté, quand Roland a fait ce qu'il devait faire, il a mis un 4-4-2 assez compact. C'était pas eux d'aller chercher le résultat. C'était à Guingamp d'aller prendre les points. C'était Guingamp qui devait gagner le match. C'était à eux de prendre les initiatives. Et puis au final, voilà, ils ont pas réussi. Gourvenec, c'est un petit peu n'a pas semblé. J'ai pas eu l'impression qu'il avait conscience de l'importance de ce match-là. Quand tu vois les changements au cours de match, poste pour poste, il y a juste en fin de match où il sort un milieu et il met un attaquant, très franchement, c'est un Guingamp qui était apathique et qui mériterait, c'est triste à dire, mais qui passe à un club important en Ligue 1, mais c'est qui a un club qui mérite d'aller en Ligue 2 cette année.
Kevin.
Ouais, c'est quand même l'échec d'une politique à Guingamp, parce que cette saison vraiment, la saison comme on dit. Alors des fois ça arrive à des clubs qui sont plutôt stables de Ligue 1 et ils ont la saison catastrophe où rien ne leur réussit. Les choix de la direction n'ont pas été bons, les choix des entraîneurs n'ont
mercato
pas été bons.
Le mercato,
les joueurs n'ont pas été bons sur le terrain. Et donc voilà, c'est vraiment dommage pour ce beau club comme on l'a dit du foot français, parce que c'est jamais facile de descendre en Ligue 2, même si bon ils vont faire ce qu'il faut pour tenter de remonter dès l'année prochaine. Mais c'est vrai que dans le jeu ça a été très pauvre et tout au long de la saison.
C'est terminé à Newcastle, entre Newcastle et Liverpool, match très important dans la course au titre, Morgan Mori.
Liverpool a du caractère et Liverpool garde intact ses chances de titre en Première Ligue. Succès 3-2 sur la pelouse de Newcastle, réalisation de Van Dijk et Salah. À chaque fois, Newcastle est revenu et finalement Origi qui a remplacé Mohamed Salah a placé une tête qui permet à Liverpool de l'emporter 3-2, de prendre provisoirement la tête du championnat d'Angleterre. Manchester City joue lundi son match de la 37e journée dans le championnat anglais. Ce sera à domicile face à Leicester, mais quoi qu'il arrive, tout se jouera dimanche prochain lors de la 38e et dernière journée.
Merci beaucoup Morgan, bonne soirée à toi. Match à suivre d'ailleurs lundi à 21h sur RMC Sport 1, ce match entre Leicester et Manchester City et Leicester d'ailleurs. Roland Courbis, on vous l'a promis, il est en direct avec nous dans l'after. Roland Courbis, Caen qui a donc fait match nul 0-0 à Guingamp ce soir. Bonsoir coach.
Bonsoir les amis.
Comment il va mon Roland?
Réponse stupide, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire.
C'est-à-dire, tu l'as trouvé comment ce match aussi? Est-ce que tu l'as trouvé un peu emmerdant comme nous finalement?
Ah, très.
Ouais. Coach, bon, est-ce qu'on peut savoir si l'objectif au coup d'envoi, ça restait quand même de prendre ce point du match nul et de laisser l'initiative à Guingamp?
Ben non, pas du tout. Donc on était venu pour leur poser des problèmes, chose qui n'a pas été le cas, sauf sur 2-3 actions. Mais on a eu une semaine compliquée, même si ça s'est pas beaucoup su. Déjà, il a fallu remplacer Djikou, ce qui est pas évident. Heureusement qu'on a donc Fred Guibert qui peut jouer à plusieurs postes et qui est un petit peu notre couteau suisse. Ensuite, on avait deux, trois petits ennuis de la sciatique pour Ningaz, musculaire pour Kiveli. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais l'idée c'était de profiter de la situation, de la nervosité de Guingamp pour essayer de construire quelques attaques et d'en réussir une ou deux. Là, sur ce plan-là, on a été très très moyen, je dirais même trop moyen. Donc le résultat, vu notre prestation, le résultat il est pas mal puisque ça nous fait quand même 10 points sur les 6 derniers matchs. Donc ça c'est bien.
Alors justement Roland, 10 points sur les 10 derniers matchs, Caen est toujours barragiste avec 30 points, 3 points de retard finalement sur Monaco et Amiens alors qu'ils n'ont pas encore joué au cours de cette journée, de cette 35e journée. Est-ce que au-delà de la place de barragiste qui était le grand objectif quand tu es arrivé à Caen, vous vous mettez pas à vous dire il y a peut-être moyen d'aller chercher plus haut et d'éviter d'être barragiste justement?
Ben, vu les résultats surprises et les matchs faussés par les équipes qui ont la chance de rencontrer les deux équipes Rennes et Paris Saint-Germain qui ont joué la finale de la Coupe de France, mal placée évidemment une fois de plus. Donc on regarde les calendriers des uns et des autres et c'est très difficile de pouvoir faire des pronostics. Donc effectivement, on peut terminer encore 20e comme 17e. On peut se sauver aussi, suivant le parcours d'Amiens et de Monaco, on peut se sauver sans les barrages. Mais il faudra quand même faire le plein. Quel genre de Lyon on rencontrera dans 15 jours? Là d'abord on reçoit Reims. Quand je vois le Lyon que Dijon a rencontré, c'était un Lyon au bord du suicide. Maintenant ils ont l'air d'aller beaucoup mieux. Donc on sait pas trop. Faire des pronostics dans ce sprint final complètement faussé, c'est très très compliqué pour tout le monde. Mais bon, certainement que je dois dire des conneries puisque je suis tout seul dans ce combat depuis 20 ans et la fédération et la ligue trouvent tout à fait normal qu'on puisse jouer 3 jours après un événement comme la finale de la Coupe de France avec prolongation, la Marseillaise, la présentation de la Coupe le lendemain. Donc c'est tout à fait logique, c'est moi le con du village.
Jonathan.
Salut Roland, écoute, déjà bravo parce que c'est vrai que les derniers résultats sont plus que positifs. Moi j'ai une question juste sur le match. T'as pas été surpris de l'attitude de Guingamp qui au final n'a pas proposé grand chose?
Sincèrement non, des fois je suis surpris et je le reconnais. Là nous misions justement sur la nervosité des Guingampais qui se retrouvent 20e, ce qui est surprenant pour tout le monde. Et même très surprenant pour leur président, ce qui lui fait faire et ce qui lui fait dire des conneries. Donc c'est vrai qu'on misait là-dessus pour justement, avec un peu plus de calme qu'eux, arriver à construire quelques attaques sympas pour pouvoir profiter de leur nervosité. Mais ça, on n'a pas su le faire. C'est dommage, mais on se contente du nul, je dirais malheureusement.
Est-ce que tu l'as vu le président?
Non, j'ai pas eu ce plaisir, donc voilà. Donc j'aurais souhaité évidemment le traditionnel bon courage pour la suite, puisque mathématiquement Guingamp n'est pas encore en Ligue 2.
Tiens, et toi qui es comptable à tes heures perdues, mon Roland, on rappelle le calendrier de fin de saison pour Caen. Il y a 2 matchs à domicile face à Reims et Bordeaux, et entre les deux un déplacement à Lyon. C'est quoi l'objectif en termes de points là sur les 9 possibles pour cette fin de saison pour Caen?
S'il y avait un sprint final normal, oui, mais comme je pense que Dijon peut gagner au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain que je vois depuis 8 jours, on peut faire aucun pronostic. Donc nous avions prévu que Dijon perde à Paris, nous avions prévu que Dijon se fasse accrocher demain à Nantes, ben on l'espère, et après ils reçoivent à domicile Toulouse et Strasbourg. Et Strasbourg est évidemment en vacances, puisque voir cette belle équipe de Strasbourg avec un entraîneur très compétent ne gagner qu'un match sur les 12 derniers matchs, si ça fait pas réfléchir aux dates que nous mettons les finales de Coupe Nationale, je sais pas quand c'est qu'on réfléchit.
Enfin, mais hier, ils font match nul contre Marseille, Roland, ils jouent le jeu aussi.
Et alors, c'est quoi? C'est un exploit de faire un match nul contre Marseille?
Ben non, ils ont pas lâché le truc, quoi, ça que je veux dire.
Ah, tu penses que c'est uniquement quand ils perdent? Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Marseille leur donne le point.
Tu regardes
tu regardes le parcours de Strasbourg avant qu'ils se qualifient pour la finale, match, etc., ils perdent 4 matchs et 3 nuls sur 7 matchs. Et après, en plus, il a gagné. Et ils sont européens. La place de cinquième et la place de sixième, elle n'existe plus. Il y a une certaine époque, le septième, le huitième, le neuvième, il avait encore espoir de finir cinquième et tout. Là, maintenant, il sait qu'il n'y a plus que la place de quatrième. Donc, je dis tout simplement que ça fausse tout. Eh bien, on fait avec, hein. On va pas déclarer forfait pour nos matchs.
Non, hein. Oui. 4 points, Roland. 4 points et la place de barragiste est assurée.
Je suis pas sûr. Ouais, mais là, ils peuvent aller chercher encore plus haut, ça.
Ouais, oui,
on va
oui.
savoir. Et t'as Amiens à 3 points, là, aujourd'hui, hein. Ils sont à portée de fusil, hein. Merci, Roland. Bravo encore. Bravo, c'est un nul, mais c'est un bon nul, quoi.
Ouais, pour le résultat, peut-être, pour les 10 points, 26 matchs, peut-être, mais pas pour le match d'aujourd'hui.
Ouais, c'était pas
qui
fou.
Qui était d'un niveau très, voire trop moyen.
Voilà. Merci, Roland.
Merci, Roland.
Bisous, Roland. Bonne soirée, Roland.
À bientôt. Bonne soirée à tous.
Ciao, ciao, Roland.
Tiens.
Oui.
Est-ce qu'on est quand même d'accord pour dire que Roland Courbis vient absolument de me donner d'accord sur notre premier débat du soir? C'est-à-dire que n'importe quelle équipe en Ligue 1 est en roue libre une fois qu'ils ont...
C'est quoi, à un moment, il le disait, j'avais envie de lui dire, Thomas Tuchel a expliqué qu'ils étaient en mode
match amical. Sauf que c'est le PSG. C'est pas n'importe quel club de Ligue 1. C'est un club qui est à part. C'est le PSG, c'est Marseille,
mais
c'est Lyon.
Mais il vient de dire que n'importe quel club, une fois qu'il a atteint son objectif, devient
mais
un
Kevin,
peu...
Mon chéri, compare parce qu'il n'est pas comparable.
Le problème, c'est que le PSG n'a pas atteint
son objectif. Et le PSG n'a pas gagné
de coupe. Ils perdent la finale de Coupe de France, ils viennent de la perdre et puis ils sont sortis en Champions.
C'est une saison qui est catastrophique.
Non, mais c'est pas la même situation. Non, mais Kevin, si le PSG avait fait le taf à côté, tu viens de te faire taper en finale de Coupe de France, t'es supporter du PSG, tu dis, attendez les mecs, on vient de perdre la finale de Coupe de France. Ok, c'est un match de Ligue 1. Ok, il y a
juste,
pas d'enjeu.
Je faisais juste un petit parallèle.
Non, mais c'est pas comparable.
Mais c'est pas des situations.
Tu peux pas te poser ça.
Non,
c'est comparable.
Mais non, parce que Roland parle de la coupe, c'est un exploit. Le PSG la perd, c'est un exploit, mais dans le mauvais sens du terme.
Moi, je parle du titre de champion de France.
Mais il y a pas de champion de France, Kevin. Non, le titre de champion de France.
On va accueillir Corentin, tiens, justement, l'autre Corentin, notre habituel de l'after. Salut, Corentin.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous.
Salut, Corentin. Comme nous tous, tu t'es pas régalé ce soir.
Moi j'étais au stade pour le match Dijon la semaine dernière, qui était un match tout aussi important et j'ai préféré l'approche du match de la semaine dernière que celui de ce soir.
Passif,
ce soir,
hein, là.
On a quand même beaucoup subi ce soir.
Eh ouais.
Même si Guingamp était maladroit dans le dernier geste. Donc c'est un point qui permet de laisser Guingamp à 5 points. Mais au niveau du contenu, comme l'a dit coach précédemment, c'était beaucoup trop moyen. Et alors que dans l'attitude, le match c'est pas du tout comparable avec le match de Dijon de la semaine dernière.
Comment tu la sens toi les 3 derniers matchs là?
Pas très très bien. Depuis le mois de décembre, je sens pas. Depuis le mois de décembre, je suis pétri.
Corentin, il y a du mieux quand même.
Oui,
en termes de résultats, je te parle pas en termes de fond de jeu, mais bon, au point donné de la saison, on s'en moque là.
Bien sûr qu'il y a eu du mieux. Après, on part de loin parce qu'on a eu une grosse série, une grosse traversée du désert en milieu d'hiver, donc ça le paye encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'on part d'un petit peu trop loin. Je l'ai déjà dit la dernière fois que je suis intervenu sur cette antenne. J'aurais préféré que Roland arrive un petit peu plus tôt. Arrive fin janvier pour pouvoir avec lui peut-être emmener 2-3 joueurs pour régénérer cet effectif. Ça n'a pas été le cas.
Non,
et
t'as raison parce que la passade négative là, elle a été beaucoup trop longue. C'était pire que la traversée du désert de Sarkozy après avoir soutenu Balladur. Ça a duré bien trop longtemps. Après, par contre, très franchement, comme Roland l'a expliqué, il y a rien qui est sûr, mais t'es quand même en mesure d'envisager mieux que barragiste là. Ouais, c'est quand même inespéré.
Sur des matchs comme ce soir, Corentin, je pense qu'on peut se dire que vous auriez signé tous les Canets auraient signé avant pour un match nul. Alors il y a peut-être pas eu la qualité de jeu sur la pelouse, mais le plus important c'était quand même de laisser Guingamp à distance et vous êtes toujours bien placé pour cette course de barrage. Pour retenir ça,
vous savez quoi, les gars, en plus vraiment quand on regarde le classement, c'était à Guingamp d'aller chercher quelque chose ce soir.
D'ailleurs, Roland,
sur ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais dans l'attitude, les Guingampais, ils ont essayé, même si c'était très maladroit et pas.
Ils ont le contrôle, mais ils ont jamais été dangereux quasiment.
Bah oui, c'est vrai. Peut-être sur 2-3 situations, ils en jouent un peu mieux les coups, c'est vrai. Mais bon, ce soir, ils ont essayé d'aller chercher le résultat. Ils n'ont pas réussi, tant mieux pour nous. Après, concernant les deux équipes devant nous, en l'occurrence Monaco et Amiens, je pense que même s'il n'y a que 3 points, il y a un match en moins, on verra les résultats de demain. Mais je pense que si on avait une chance de les accrocher, je pense que c'est en gagnant ce soir. Je pense que ça sera, moi, de mon intime conviction, ça sera 19e. Je pense qu'au mieux, ça sera barrage. Mais pour moi, ça sera 19e. Et malheureusement, 19e, ça suffit pas.
Eh, parce que t'es supporter, Corentin. T'as toujours, quand on est supporter, on a toujours tendance à envisager le pire.
Corentin, merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Corentin.
Merci, Nicolas.
Bonne soirée. Bisous, Corentin. Ciao, ciao, Corentin. On va accueillir Pierre, qui est supporter de Guingamp. Alors lui aussi, Pierre, il a un peu la même lecture, finalement, de ce match que Roland et que nous tous. Salut, Pierre. Toi, tu dis, ce match était pas fameux, mais pas que ce match-là, d'ailleurs.
Salut, Aster.
Salut, Pierre.
C'est ça, Pierre. Je crois que toi, tu kiffes pas trop, finalement, le jeu proposé par les équipes de bas de classement.
Clairement pas. Voilà, je suis déçu de mon club ce soir. Bon, on avait la posture du ballon, mais après, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a proposé? Est-ce qu'on a eu des vraies actions intéressantes pour sortir du du marasme dans lequel on est englué depuis début août? Parce qu'il faut pas se voiler la face. On est vraiment dans la galère depuis début août.
C'est compliqué, ouais.
Ouais. Et puis je pense que vraiment, je suis étonné en fait des clubs qui jouent en Ligue 1 de la 12e à la 20e place.
Non.
Qu'ils ont proposé en fait. Mais vraiment.
Tu peux pas tout ça comparer.
Non, ouais, d'accord. On peut trouver des choses intéressantes chez certains clubs, mais je trouve que c'est tellement dommage de...
Tu peux pas comparer, par exemple, ce que propose Amiens, est-ce que compare Dijon, est-ce que compare Guingamp, c'est totalement différent.
Ouais, oui, non, mais certes, moi, je vais pas être nombriliste en disant Guingamp, voilà, on a joué avec la peur au ventre de août à jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a une certaine politique sportive, j'en avais parlé avec vous dans les semaines dernières. C'est vrai que c'est compliqué, voilà. Mais
Pierre,
avec un oui.
Moi, j'ai une question, si tu me permets. Qu'est-ce que tu penses qu'a apporté Gourvennec depuis qu'il est arrivé à Guingamp?
C'est ça.
Ah bah ça, comment dire, Ali me l'a posé il y a 15 jours. Bah oui et non. Il y a eu du mieux, mais encore, il y a eu des choix étranges. Je comprends pas pourquoi Ludovic Blas n'est pas titulaire à chaque match. Parce que c'est le mec qui t'apporte ce surplus d'énergie,
bien
sûr. Technique. Un truc un peu fou.
Pourquoi Ndong a autant joué autant de matchs aussi?
Ça c'est
une question.
Mais est-ce que t'as senti un changement de philosophie, un jeu? Normalement, Gourvennec, c'est quand même censé être le jeu à la Nantes.
Et surtout qu'on rappelle que Cambori s'était fait découper par les supporters au moment où il est parti.
Ouais, c'est sûr.
Est-ce que t'as senti peut-être un jeu, en tout cas une tentative de jouer de façon un peu plus spectaculaire, un peu plus un football un peu plus léché, quoi, un peu plus beau à voir?
Pas des masses. Mais je pense que comme on avait parlé avec John il y a 15 jours, le fait de souer Salibur début août au début de la saison,
de le prêter déjà, à Saint-Étienne, ouais.
C'était déjà une preuve de
manque d'ambition,
d'incompétence, oui, ou même d'un manque d'ambition, mais
d'incompétence, oui, t'as raison, incompétence, c'est le bon mot dans cette transaction
en cause. Mais au-delà d'être nombriliste, je voudrais parler des clubs qui sont un petit peu dans le ventre mou de la Ligue 1. Le spectacle qu'on propose, mais il faut pas se leurrer, les gars. Si jamais les droits TV sont vendus aussi chers à ce jour, c'est pas grâce à nous, hein. C'est vraiment grâce à vous, ouais. Grâce à comment dire.
Mais après, il faut des clubs comme Guingamp aussi, ouais. Pierre, dans un championnat.
Après, juste pour Kevin,
par rapport à la nouvelle définition du avec des champions qui va peut-être voir le jour en 2024, ça fera pas une belle vitrine pour la Ligue 1.
Après, Pierre.
Se taper tous les matchs du vendredi soir et du samedi soir, parce que
non, parfois c'est bien.
On en est rendu là.
C'est trop facile.
Enfin, parfois c'est bien, mais trop souvent ça passe pas bien. Non, trop souvent.
Mais là, juste attends, Pierre, pour en venir au match de soir, Kevin a ouais. Kevin a raison, mais même j'ai envie d'aller plus loin. C'est que Gourvennec, d'une part, le mieux, on a du mal à le voir, mais j'ai l'impression qu'il perd un peu les pédales sur la fin de saison. Là, tu vois la composition d'équipe, t'as du mal à la comprendre. Pourquoi être un milieu défensif? Pourquoi Coco sur le banc? Tu comprends pas non plus, parce que même s'il est, il a eu des petits pépins physiques, pourquoi un mec comme Lucado, qui est un vrai guerrier, qui est habitué à être là quand t'es dans le dur, pourquoi il commence pas le match? T'as des changements en cours de match, tactiquement ça a ni queue ni tête, donc j'ai l'impression qu'il perd aussi un petit peu pied avec son équipe, et c'est ça qui m'inquiète pour Guingamp.
Merci à Pierre d'avoir été avec nous, supporter de Guingamp, qui a donc fait match nul 0-0 à domicile face à Caen ce soir. Guingamp dernier du championnat avec 5 points de retard sur Caen, qui est donc barragiste, 18e et barragiste. Caen qui a donc 3 points de retard sur Amiens et Monaco qui sont juste devant. Amiens et Monaco qui n'ont pas encore joué. Rappel des résultats de ce samedi, 1 partout cet après-midi entre le PSG et Nice, je viens de vous le dire, 0-0 entre Guingamp et Caen. Victoire 3-0 de Nîmes à Reims, et puis Bordeaux s'est incliné à domicile 1-0 face à Angers. Des matchs qui n'ont pas d'enjeu, hein, ces deux derniers matchs, hein. Bordeaux-Angers et Reims-Nîmes. Exactement, des matchs amicaux qui n'étaient pas trop. Dans quelques instants, on sera avec Gérard Lopez, président du LOSC. On rappelle qu'on est à J-1 du choc du week-end entre Lyon et Lille. 6 points d'avance pour les Dogs. Gérard Lopez, président de Lille, en direct avec nous dans l'after, avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty. J'arrive pas à dire ton nom. Pas ce qui se passe ce soir.
C'est pas grave, mon bifou.
Petite pause à tout.
Très bien quand même.
RMC. L'after foot.